Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Scène Nectar du Cantal.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours très heureux d'être avec vous, évidemment. Et avec Marie Martineau, Denis Charvet, Simon Dutin, Pascal Duprat. Oscar Jégou va rejouer au rugby ce soir en top 14. La Rochelle voulait pourtant attendre un non-lieu. Le club Rochelet a-t-il raison de retourner sa veste? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. La tribune est fermée tous les 4 matins. La punchline du jour est signée Luis Enrique qui s'interroge sur les sanctions à répétition contre le PSG. On en parle à 10h30. Et puis 11h, le Roi Léon a encore frappé, pulvérisant hier le record du monde du 200 mètres 4 nages. Les records du monde deviennent-ils plus importants que les titres? Pour lui, vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Un cadeau à vous faire gagner à l'occasion de la sortie du film cette semaine, Venom The Last Dance. Et bien, dans les grandes gueules du sport, nous vous offrons des goodies du film. Oui, chargeur de téléphone, housse d'ordinateur, gourde de parapluie. Je ne savais pas que ça existait. Bah, bravo pour les gourdes de parapluie. Évidemment, vos places pour aller voir le film, pour remporter votre pack Venom The Last Dance. Rien de plus simple, vous appelez le 32-16, première arrivée, premier servi, les copains. Jules Renard a dit un jour, si la girouette pouvait parler, elle dirait qu'elle dirige le vent.
RMC. Le bras de fer GG.
Oscar Jégou et Hugo Radou sont dans l'avion. Ils sont en train de rentrer en France 2 mois quasiment après avoir été inculpés pour viol en Argentine.
Pour le moment, les deux joueurs inculpés pour viol sont assortis à des règles strictes, comme se présenter au consulat d'Argentine en cas de convocation et de revenir à Mendoza si la justice leur demande.
C'est quelque chose de très grave et très important, donc la justice prendra le temps qu'il faut pour prendre leur bonne décision et on l'espère favorable.
Prochaine étape, demain, en match devant 17 000 spectateurs après bientôt 4 mois sans jouer. Oscar Jégou sera même titularisé demain soir face au Stade français.
En tout cas, on est très content de le revoir sur le terrain.
Je suis très content pour lui qu'il soit dans le groupe.
C'est surtout lui qui doit être heureux d'être sur le terrain, tout simplement.
Un mois après Hugo Radou, Oscar Jégou va redevenir aujourd'hui un joueur de rugby. 4 mois après l'affaire de Mendoza, dans laquelle les deux joueurs sont toujours mis en examen pour viol avec violence en réunion, Oscar Jégou, vous l'avez entendu, va donc être titularisé ce soir avec La Rochelle pour affronter le Stade français. Et c'est une surprise, un retournement de stratégie, car depuis le début, les dirigeants des Maritimes voulaient attendre un non-lieu avant d'aligner leurs joueurs sur une feuille de match, contrairement à Pau, pour Hugo Radou. Oui, mais voilà, la procédure est au ralenti en Argentine et sur le plan sportif, La Rochelle fait face à des absents. Notre débat, le club de La Rochelle a-t-il raison de retourner sa veste? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Denis Charvet, Simon Dutin et Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team non, représentée par Marie Martineau.
Sortez les rames.
Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à La Rochelle, Romain Asselin. Bonjour Romain.
Salut les grandes gueules.
Salut Romain.
Raconte-nous un petit peu la coulisse, comment La Rochelle a décidé de changer d'avis sur le cas Oscar Jégou.
En fait, tout s'est joué en début de semaine quand la direction a eu écho de l'énième report de l'audience d'examen du non-lieu qui était prévu hier. Report sinédié cette fois, alors que ça fait un mois que le parquet argentin de Mendoza a requis un non-lieu. Pour résumer, calendrier judiciaire caduque égale position caduque. Voilà ce que dit l'avocate du joueur et du club. Nous n'avons plus de date, on ne peut pas indéfiniment entraver Oscar Jégou dans l'exercice de son métier de joueur professionnel. L'occasion de rappeler que le jour de son retour en France, début septembre, le Stade Rochelet se disait, je cite, convaincu de son innocence depuis les premiers jours. Alors l'information de son retour à la compétition a commencé à fuiter mercredi. Confirmation le lendemain midi à l'entraînement ouvert aux supporters et à la presse. Toute première apparition publique du troisième ligne de 21 ans. Il était jusqu'alors totalement préservé de l'extérieur par son club. En interne, le sujet reste globalement tabou, faut le dire. Beaucoup esquivent les questions. Pas Brice Dulin. On a demandé à l'arrière international comment Oscar Jégou avait vécu ce moment.
Je sais pas, dans sa tête, c'est sûr qu'il doit prendre du plaisir, tout simplement. On s'entraîne dur toutes les semaines pour être sur le terrain. Notre récompense, entre guillemets, chaque semaine, c'est de pouvoir jouer le week-end. Donc, je pense que c'est ça qui est la jouissance extrême d'un sportif de haut niveau. T'as beau t'entraîner dur pendant des mois, si t'as pas le match le week-end, à un moment donné, la joie et le bonheur d'être sur le terrain peut disparaître. Donc.
Oscar Jégou sera même titulaire, on le disait ce soir. Autre facteur qui favorise son retour, tu l'évoquais, JC, le vide à son poste où il était indiscutable en fin de saison dernière. Aldrit et Boudéan sont avec le 15 de France pour préparer la tournée d'automne. Cancorier est suspendu, Botia est absent depuis 6 mois. Le Rochelais Will Skelton, capitaine de l'Australie, comprend autant qu'il savoure ce revirement.
C'est tout à l'honneur des coachs de le faire revenir dans le groupe où figurent plusieurs blessés. Vous avez pu voir ô combien il jouait bien en fin de saison dernière. Il méritait de jouer pour l'équipe de France. Je suis très content pour lui qu'il soit dans le groupe. Ça fait 3 à 4 semaines qu'il s'entraîne avec nous. Il amène toujours son énergie à l'entraînement.
Alors quid de son état physique après 6 semaines de réathlétisation? Aldrit avait vendu la mèche il y a 15 jours. Confirmation jeudi de l'entraîneur Rochelet Rémi Thalès, écoutez-les.
Il est physiquement très prêt, de toute façon physiquement il a toujours été au top.
Ça fait maintenant un petit moment qu'il se re-entraîne, qu'il s'est renforcé, qu'il a retrouvé son état physique. Il est bien pour jouer au rugby.
Et ce sera devant 17 000 personnes ce soir 21h au stade Marcel de Flandre de La Rochelle.
Merci beaucoup Romain Asselin, tu restes avec nous évidemment pour ce débat. Supporter de La Rochelle, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Si vous voulez intervenir évidemment sur ce débat, le club de La Rochelle a-t-il raison de retourner sa veste? C'est serré en tout cas, on a soumis ce débat au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous êtes 56% à dire oui, La Rochelle a eu raison, 44% non. Marie, tu es derrière, tu commences, pourquoi non?
Bon, c'est pas forcément une position évidente à défendre parce que ben le fait est que les choses ont changé là et que la décision de juger ce non-lieu n'a pas été prise, donc je pourrais éventuellement comprendre qu'on réanalyse la situation en fonction des choses qui ont changé. Pour autant, j'aime pas trop la raison pas très honorable de il y a des absents à ce poste, donc ça devient un petit peu légitime de le refaire jouer. Voilà, il est à l'entraînement, il est avec le groupe, c'est déjà très loin de ce qu'il a pu vivre il y a quelques mois quand il était encore coincé outre-Atlantique. Voilà, je trouve que la situation a déjà bien évolué favorablement et que La Rochelle aurait pu attendre encore un petit peu de voir, parce que pour l'instant, excusez-moi, mais il est toujours mis en examen pour viol avec
le parquet a demandé un non-lieu. Je viens
de rappeler qu'il est présumé innocent,
mais à ce moment-là, il y a que l'effet de loupe en fait du match officiel. Qu'est-ce que ça, à ce moment-là, tu lui interdis l'accès au centre d'entraînement, tu lui interdis de faire son métier, tu lui interdis
de gardes
ses collègues, tu lui interdis, supprimes son badge d'accès.
Tu le gardes en argent.
Soit il a le droit de faire son métier, soit il a plus le droit de faire son métier. Parce que là, qu'est-ce qu'on juge en fait? On juge l'image que ça va renvoyer pour le club de La Rochelle et plus généralement pour le rugby français, pour le sport français.
Non, mais La Rochelle avait
déjà, c'est pas facile de trouver des arguments. T'as fait intervenir le GOAT Romain Asselin qui a tout rappelé. Il y a La Rochelle qui est dans une situation critique par rapport à leurs ambitions. Ils ont déjà perdu 3 fois. Il y a tous les absents avec le 15 de France, les retours de blessures, le suspendu.
Mais ils sont
confrontés à un principe de réalité. Et le principe de réalité, moi je veux bien encore une fois qu'on défende toujours la présomption d'innocence et qu'on n'insulte pas l'avenir, notamment l'avenir judiciaire, parce qu'il peut encore tout se passer dans cette affaire. Mais on a scruté les moindres développements de cette affaire. Tu te mets à la place des dirigeants de La Rochelle. Ils sont en contact régulier depuis le début, évidemment, avec les avocats des joueurs. Et ce qu'on croit quand même voir se dessiner depuis quand même quelques semaines désormais, c'est que ce non-lieu, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être prononcé.
C'est justement la question.
Et tu te mets à la place des dirigeants de La Rochelle. Si je pense que si dans leur esprit il y avait encore la moindre chance pour que leur joueur soit déclaré coupable de cette affaire à Mendoza.
Oui, mais c'est même pas ça.
Je reprends justement la main parce que je viens dans ce débat. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Simon, là-dessus. C'est-à-dire que dès le début, dès qu'ils sont rentrés en France, La Rochelle a envoyé un communiqué
en disant non.
Surtout, c'est un pas de plus vers la vérité. C'est bon, on va reconnaître son innocence. Mais à ce moment-là, il n'avait pas forcément toutes les preuves venues de Mendoza. Moi, je pense plus que c'est une.
La Rochelle
prend une position dogmatique. Et
c'est leur erreur.
Que Pau prend. C'est-à-dire que eux, leur position, c'est il sera prêt, il joue parce qu'il est présumé innocent. Dont acte. La Rochelle dit, tant qu'il n'y a pas de non-lieu, on ne le fait pas jouer. Et là, oui, sous prétexte de sportif,
Absolument, ils se sont fait prendre au piège. Je pense qu'au début, c'était très honorable, justement, cette décision. À l'inverse de Pau qui a dit s'il est en forme, il va jouer maintenant parce qu'il est présumé innocent et qu'on n'a pas de raison de ne pas le faire jouer. Eh bien, La Rochelle avait pris la décision inverse en disant on attend que le non-lieu soit prononcé pour qu'il joue. Mais il pensait que je pense qu'ils pensaient sincèrement que l'on lui allait être prononcé très rapidement, sachant qu'ils avaient tous les éléments à leur possession, sachant que l'on lui risque d'arriver très vite ou pas. Mais c'est plutôt l'optimisme aujourd'hui. Mais évidemment qu'ils sautent sur l'opportunité aujourd'hui de le faire rejouer.
Mais notre débat, c'est ça. Est-ce qu'ils ont raison de sauter sur l'opportunité?
En fait, ils ont raison parce que moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux pas empêcher le joueur Oscar Jégou de jouer. Tu peux pas l'empêcher, comme le dit très justement Simon, d'aller à l'entraînement, de s'entraîner, de faire son boulot, en gros. Parce qu'il est présumé innocent. Moi, j'ai toujours dit, tant que t'es présumé innocent, eh ben, y a pas de raison, t'es pas en prison, t'es n'est pas condamné.
Mais c'est pas juste une plainte. Enfin, il a été mis en examen, tu vois. Oui, il est présumé innocent, mais il a été mis en examen. C'est pas neutre comme.
Mais j'ai pas jamais dit que c'était neutre. Je dis juste que sa position aujourd'hui, sa posture, c'est qu'il est présumé innocent.
Pascal.
J'ai beaucoup hésité. Et je voulais vraiment rejoindre Marie.
Mais vas-y si tu veux.
Franchement, j'ai envie de rejoindre Marie.
Mais vas-y, je vais le faire.
Allez. Je vais le faire. Je retourne ma veste, moi aussi.
Encore une fois.
Je voulais simplement dire une chose. Quand Pau prend la décision le 5 octobre de faire jouer c'est aussi une position, leur position, elle est ferme, elle est défendable, ils décident. Et aujourd'hui, La Rochelle fait machine arrière. Pourquoi ?
Pascal, je peux juste préciser quelque chose.
Oui.
Il n'y a jamais eu de communication officielle du club pour dire on va attendre le non-lieu avant de le faire rejouer. C'était ce qui se disait en off, mais ça n'a jamais été montré.
Je voulais juste préciser de la part de La Rochelle.
Oui, il n'y a jamais eu de communication officielle, jamais de communiqué pour dire ça.
Alors il en résulte le fantasme journalistique alors.
Non,
du jamais tout. Dit.
Non, c'est dû à ça se disait en off.
Oui, mais la réalité, c'est qu'ils jouaient pas. Okay. Donc, si tu veux, ils ont
absolument pas précisé ça.
Si vous voulez bien me laisser terminer, si on prend les deux décisions prises par les dirigeants des clubs, même si celle de La Rochelle est en off, aujourd'hui, La Rochelle, se méjuge, se déjuge.
Oui.
Donc, si on veut bien aujourd'hui considérer que Pau est allé jusqu'au bout, a décidé de faire son jouer son joueur le 5 octobre, aujourd'hui La Rochelle fait machine arrière.
Mais non, parce que
je pense que la décision,
aujourd'hui.
Non, mais malgré tout, la décision de La Rochelle à date, elle est plus contestable que celle de Pau, qu'ils ont changé d'avis tout simplement.
Mais ils ont changé d'avis pour une bonne raison,
une bonne raison. Un report.
Mais pas leur report, c'est qu'ils ont.
Si, ça va plus vraiment dans le sens de leur calendrier sportif. C'est contestable.
Cela dit, le joueur, si ça fait 4 mois qu'il joue pas, s'il s'entraîne depuis qu'il est rentré d'Argentine, depuis qu'il était détenu là-bas, aussi les dirigeants doivent considérer que ce joueur-là, si on ne le laisse pas jouer encore pendant un mois, c'est mort pratiquement pour la saison.
On va simplifier. Les dirigeants de La Rochelle, ils sont en contact avec. Les avocats des joueurs. Donc ils ont accès à toutes les nouveautés qui apparaissent dans ce dossier. Et en gros, les avocats des joueurs leur disent bon, à telle date, il y aura un non-lieu. C'est une certitude. Voilà, les joueurs vont être blanchis. Le non-lieu, finalement, la décision qui doit prononcer
ce non-lieu.
Moi, c'est la lecture.
Non, parce qu'il y en a un appel.
Et le non-lieu, il est repoussé, Romain l'a rappelé, sine die. C'est-à-dire que tu n'as même plus une date à laquelle te rattacher en disant là, tel jour, ils seront blanchis et il n'y aura plus de problème.
Parce que la plaignante a fait appel, n'oublions pas.
Donc, confrontés à leur principe également de réalité avec les doublons, les absences pour suspension et pour blessure, bon, ils disent écoutez, voilà, on avait dit que, et la position de principe, évidemment, elle était justifiée par le fait qu'ils avaient une date à laquelle se raccrocher. Ouais. Là, il n'y a plus de date. Ils disent,
d'accord, une date, Simon, mais pas forcément une date où ils allaient être blanchis. Une date où il y aurait une décision de prise.
Mais
enfin, je veux dire, à ce moment-là, on n'a plus. La justice ne fait plus son travail.
Je pense que si, dans la tête des dirigeants de La Rochelle ou des dirigeants palois, s'il y avait encore le moindre doute du côté des avocats des joueurs quant au prononcé de ce non-lieu,
je pense qu'ils
n'auraient jamais pris le risque, ni à Pau ni à La Rochelle, de les remettre sur le terrain.
Alors Simon et Denis, vu que vous pensez que La Rochelle a bien fait justement de retourner sa veste, je vous propose d'écouter Florian Grill. C'était dans les GG, il était notre invité.
Ils avaient bien fait, j'ai dit que je comprends leur décision.
Tu as compris mon résumé. On écoute Florian Grill. C'était il y a deux semaines dans les GG, fraîchement réélu à la tête de la présidence de la LFP. On lui a posé la question quant à de la FFR, évidemment pas la LFP, ça n'a rien à voir, il fait pas le foot, de la FFR. On lui a posé la question sur l'équipe de France, mais aussi sur les clubs. Écoutez sa réponse, Florian Grill.
C'est très clair, ils ne rejoueront pas en équipe de France tant qu'il n'y a pas de non-lieu. Et pour qu'ils rejouent en équipe de France, il faudra aussi qu'ils aient les performances sportives adéquates.
Vous avez compris la décision finalement de la section paloise d'autoriser Hugo Radou à reprendre le terrain.
Moi, je suis pas le président de la section paloise.
Non, juste en tant que président, en tant que.
Écoutez, les clubs font ce qu'ils veulent. Les clubs font ce qu'ils veulent. Moi, je suis effectivement un passionné de rugby. Les clubs font ce qu'ils veulent, mais nous, en ce qui concerne la Fédération française de rugby, ne rejouerons pas en équipe de France tant qu'il n'y a pas de non-lieu.
Imaginez si
c'est pas pareil.
Imaginez si l'équipe de France
était privée, Jean-Christophe. L'équipe de France, c'est la vitrine du pays, de la nation. Ça n'a rien à voir.
Non, attention, ils sont employés d'un club. C'est pas pareil. Ils sont payés. Un club, ils sont salariés quand même.
Moi, je vous parle de position dogmatique. Est-ce que si
la
l'équipe
position,
de France,
elle est claire du président.
Et si la FFR avait changé son fusil d'épaule pour la tournée d'automne, admettons, ils soient prêts, ils soient bons et tout ça, et qu'ils aient des carences, est-ce que vous, ça vous aurait dérangé de les voir en équipe de France?
Oui, complètement.
Pourquoi pas la même position.
C'est lié à un voyage avec l'équipe de France. Ça s'est passé pendant un voyage avec l'équipe de France. Ça change tout. C'est-à-dire que moi, oui, tu es sanctionné parce que ton comportement, il n'est pas en accord avec l'éthique même de ce sport. Et
donc, voilà, moi, c'était permis, même. Denis. Hein. Désolé. Hein.
Ouais, parce que l'éthique n'est
Ils
pas la même en
sortir,
équipe de France ou dans un club. C'est.
Ben non,
pas, ça tu représentes pas la même pas, entité. Mais non, tu ne réponds pas au même.
Mais non, mais on juge
donc
pas.
Donc, il est question d'image.
Et évidemment.
Bah oui, mais l'image de La Rochelle ou l'image de l'équipe de France. Mais
tu peux pas les condamner,
soit pas la même chose.
Mais tu peux pas les condamner partout. Je veux dire, à partir du moment où c'est un employé qui tu dépends de ton employeur.
Mais sur ce rétropédalage, il fait pas de bien à l'image de La Rochelle. Je ne te dis pas que La Rochelle sort grandi, machin. On se dit juste que ils se sont fait un croche-patte eux-mêmes parce que en voulant donner évidemment le bon exemple, en disant nous on transigera pas, on fera pas sous-entendu comme les Palois, il ne rejouera pas. Bah, encore une fois, confrontés au principe de réalité, ils ont rétropédalé, ça leur fait pas de bien à l'image. La preuve,
mais l'image
est en train d'en
catastrophique.
Débattre ce matin. Mais
c'est évident.
Ok, Guillaume,
vous préférez la position ferme de Pau à la position changeante de La Rochelle, c'est à Denis et à Simon que je m'adresse.
Oui, moi je trouve la section paloise a mieux géré cette
bien
histoire.
Bien sûr, oui,
que
t'as raison. Bah oui, sans évidemment.
Donc j'ai bien fait d'aller du côté de Marie.
Guillaume nous appelle au 32-16. Bonjour Guillaume, supporter de La Rochelle.
Oui, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors Guillaume, je te pose la question, toi le supporter de Rochelet, est-ce qu'ils ont eu raison là, les dirigeants de retourner leur veste?
Bah ils ont surtout pas eu le choix. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix avec une petite combinaison de pas de chance, un petit peu de peut-être un peu de naïveté aussi sur le recrutement cette année, en compensant pas un départ comme Tanga, qui fait qu'on se retrouve aussi un petit peu à la peine là-dessus. Et après, ils font quoi sinon? Parce qu'on fait quoi? On fait monter un jeune qui n'est pas prêt, qui peut se blesser. Enfin, voilà, il y en a qui a déjà du Haddad, 22 ans, Jégou, 21 ans, on fait monter le petit Richet, 20 ans. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix, ils se sont retrouvés
S'ils avaient le choix, c'est quoi ta position?
Ah ben non, mais le non-lieu, de toute façon, bien sûr, le non-lieu, c'était mieux d'attendre le non-lieu. Maintenant, je pense que c'est vraiment qu'il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas de joueur à ce poste. Sinon, ils auraient attendu.
Ok, donc toi.
Non, mais c'est ce que je dis. Je pense que c'est une vraie opportunité pour eux d'avoir relancé, de le relancer. Mais s'ils avaient pu ne pas le faire jouer, ils ne l'auraient pas fait jouer.
Ok, mais ça te gêne un peu, Guillaume, c'est ce que je comprends.
Bah oui, c'est sûr. La position était bien mieux d'attendre, de ne pas faire comme Pau. Et maintenant, bah ouais, du coup, la position, elle est encore moins bonne. Donc, bon, le calcul a été mauvais, mais les doublons, tout ça, ça pouvait peut-être s'anticiper un petit peu aussi.
Merci Guillaume d'avoir été au 32-16 et de nous avoir donné ton avis au 32-16. Oui, Pascal ?
C'est pas un argument, en fait, le choix. Je suis désolé dans cette affaire-là. Ça peut pas être un argument.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le choix, tu l'as toujours.
Voilà.
Alors, vous avez pu voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Nous sommes partis à 56%. Oui, le club de La Rochelle a raison. Marie Martineau, bien aidée aussi par Pascal.
Merci.
Finalement, vous avez gagné un petit pourcentage. On finit à 55-45.
Ouais, c'est Pascal le lâcheur.
Cette consultation. Merci beaucoup, Romain Asselin. On te retrouve ce soir. 21h05 pour la rencontre entre La Rochelle et le Stade français. Et donc, le premier match depuis cette affaire d'Oscar Jégou. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de Luis Enrique, qui trouve que son son club est trop souvent attaqué, trop souvent sanctionné. On parle des chants homophobes, évidemment, qui ont eu lieu il y a quelques jours lors de PSG Strasbourg. Luis Enrique dans la punchline des GG dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Pascal Duprat, Marie Martineau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. 4 propositions de débat. Vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, c'est Pascal Duprat qui s'impose avec son Charles Olivon qui a été exclu, en tout cas qui a été renvoyé dans son club.
Pas exclu.
Et qu'il ne participera pas à la tournée où il exclut, entre guillemets, si tu veux. En tout cas,
c'est important de le dire.
Merci beaucoup Denis Charvet qui ne disputera pas le premier test match d'automne avec le 15 de France. Charles Olivon, 39% pour toi, mais attention, ce n'est pas terminé. Mais pour l'instant, Pascal Duprat est devant et on en parlera dans une dizaine de minutes dans les GG contre-attaque. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a décidé de prononcer la fermeture partielle de la tribune Auteuil après des chants homophobes au Parc des Princes lors de la rencontre face à Strasbourg. Une sanction qui ne passe pas pour Luis Enrique et pour une raison précise, vous allez l'entendre, même s'il condamne évidemment toute forme de violence. C'est la punchline des GG Luis Enrique.
RMC, la punchline GG.
Je condamne tout type de violence, verbale, physique et acte homophobe de tout type. Mais je ne vois que des sanctions envers le Paris Saint-Germain. La tribune est fermée tous les 4 matins. Et pourtant, dans d'autres équipes, on entend de tout, mais je ne vois pas de sanctions.
Mais je ne vois pas de sanctions dans les autres clubs. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Luis Enrique ? Simon Dutin.
Je suis pas d'accord.
Marie Martineau.
Oui, je suis ni d'accord ni pas d'accord.
Ok, ni rien. T'es quoi alors ?
Je suis comme Simon.
Pascal Duprat.
Non, je suis clairement pas d'accord.
Clairement pas d'accord. Denis Charvet.
Non, moi non plus.
Ok, Pascal Duprat, pourquoi ?
Parce que je trouve qu'il va pas sur le débat de fond, mais il va juste sur la forme.
Ouais.
On n'en a rien à faire. Quand bien même le Paris Saint-Germain serait défavorisé par rapport à d'autres clubs, ce qui n'est pas vrai, et ce qui tente à être démontré, il aurait dû en faire la démonstration. Mais pourquoi il va sur ce terrain-là ? C'est inadmissible que dans un stade de foot, il y ait des chants discriminatoires, de quelque ordre que ce soit. Point barre. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est le capot de la minorité de ceux qui hurlent des chants discriminatoires dans les tribunes du Parc des Princes. Donc, en fait, ils s'en foutent, ce fond-là. Non, lui, ce qui l'importe, c'est les sanctions qui s'abattent sur le Paris Saint-Germain. Donc ça m'horripile.
Bah, il défend sa paroisse aussi, quand même. C'est un peu normal aussi, tu le comprends bien.
Tu ne comprends rien dire. C'est ça que je voudrais dire aussi à Luis Enrique. Parce que moi, ça m'arrivera jamais d'aller en Espagne. Et je te promets que si j'étais allé en Espagne, j'essaierais de faire des efforts pour parler la langue. Ok.
Bon, il faut y aller en Espagne. Voilà. C'est comme la ville, hein. Tu sais, on a un peu peur au début, mais en fait,
je voudrais y aller, mais on ne peut pas m'accueillir. C'est pas la même chose.
Cette sortie, elle ressemble à Luis Enrique en fait, parce que c'est de la com. C'est le roi de la com, et encore, il remet un coup, une couche.
En fait, ce que Luis Enrique veut dire, et j'apporte en tout cas un petit peu, je nourris un petit peu ce débat. Il y a eu des chants homophobes lors de Saint-Étienne-Angers qui n'ont pas été stipulés dans le rapport. Même chose lors du classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Sauf que là où il se trompe, Luis Enrique, c'est que le Conseil national de l'éthique a saisi la commission de discipline de la LFP pour ces deux rencontres. Alors, il n'y a pas encore de sanctions parce que ce n'est pas encore réuni, mais il y en aura certainement au même titre que le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je voudrais
Il le savait pas.
On le savait déjà.
Non, mais lui, il le savait donc.
En tout cas, il devait être au courant qu'on allait
à la limite que le service juridique du club du Paris Saint-Germain fasse son travail en interne auprès de la commission de la Ligue professionnelle de football, c'est une chose, mais que publiquement l'entraîneur du Paris Saint-Germain, le meilleur club de France, puisse traiter sous la jambe ce genre de comportement inadmissible dans un stade de foot ou dans n'importe quel stade, ça c'est pas normal de la part de cet entraîneur. Je suis désolé.
Simon Dutin.
Plusieurs choses, oui, évidemment, il défend sa paroi, c'est typique des grands clubs, hein. Souvent, c'est les grands clubs qui essaient de se faire passer pour des victimes, t'entends jamais les petits clubs dire c'est toujours sur nous que ça tombe, c'est toujours les grands clubs. Luis Enrique, je pense que c'est lié à son expérience, d'abord de joueur, désormais d'entraîneur, et en effet, je pense que ces problèmes sont encore pires en Espagne, voire en Italie que chez nous. Il a été joueur, il a été entraîneur, il entend depuis 20, 30 ans ce qui se passe dans les tribunes. On va pas rappeler qu'un des grands classiques partout, c'est le OIS, ANC, voilà, et qui est désormais donc considéré comme une insulte homophobe. Alors que tu te défends comme tu veux. Bon, je pense pas que les gens qui poussent ces cris-là pensent à, soit homophobe au plus profond d'eux. Voilà, ce sont des réflexes de vulgarité, de grossièreté, de manque d'éducation. Mais voilà. Donc, Luis Enrique, en gros, je pense qu'il tombe de l'échelle en se disant, les gars, si vous sanctionnez tous les clubs dont trois pimpins dans les tribunes balancent ce genre de bêtises à chaque match, on va pas s'en sortir. Il y a la force de l'émetteur, voilà, tu sanctionnes le Paris Saint-Germain qui voilà est le premier à être victime d'une sanction aussi autoritaire, je pense, voilà. Il va falloir, pour donner raison ou tort à Luis Enrique, voir ce qui va être appliqué désormais, parce que malheureusement on t'a pas fini d'entendre des abrutis pareils en tribune, donc on va voir quelles décisions vont être prises. Mais de là à dire qu'il y a que Paris ou toujours Paris qui est sanctionné, alors certes le motif des sanctions n'était jusqu'ici pas les mêmes, mais bon, pour des tribunes partiellement ou totalement fermées suite à des incidents, que ce soit des échauffourées, il y en a eu à Metz, il y en a eu à Nantes pour de la pyrotechnie, il y en a à Rennes, à Saint-Étienne.
S'il avait
partout,
été question,
ça se fait partout. Les gens regardent et on regarde de plus en plus les comportements des gens en tribune, et des tribunes fermées, il y en a dans tous les clubs, et c'est absolument stupide de dire ou inopérant de dire qu'il n'y a que Paris qui est sanctionné.
S'il avait été question de fumigène balancé par les supporters parisiens, qu'ils prennent la parole en déplorant le deux poids deux mesures, d'accord, mais pour un sujet aussi sensible que celui-ci, non. Non,
Marie Martineau.
Il peut pas.
Bah ouais, je suis entièrement d'accord avec mes copains. Je comprends pas à quoi il a joué. Je suis plutôt assez fan. Enfin, fan. Je suis toujours assez ok avec ses sorties. Et puis j'ai une tendresse particulière avec son histoire personnelle à ce mec-là, qui me fait toujours dire qu'il a du recul sur à peu près tous les sujets. Et là, je comprends pas trop la sortie. Après, il a le droit des fois de se gourer, même si tout le monde est d'accord de dire que c'est un mec qui maîtrise parfaitement la com et qui c'est un de ses dalas.
Il a jamais de sortie gratuite avec lui. Hein.
Ouais, c'est ça. S'il le dit, c'est qu'il a. Je vous ai souvent entendu le dire.
Non, mais toujours.
Mais donc là, je vois pas trop à quoi il joue et ce qu'il essaye de faire. Alors, est-ce qu'on est dans une banalisation parce que, comme vous le disiez, en Espagne, c'est pire. En Espagne, c'est catastrophique et que, du coup, il a l'impression que déjà en France, c'est moins pire, donc c'est acceptable. Je sais pas.
Il se victimise, tout simplement, comme disait Simon. Je crois que ça va pas plus loin. Il profite du statut du PSG pour dire, voilà, pourquoi nous et pas les autres, quoi. Mais
en tout cas, c'est peut-être un appel, si j'essaye de faire l'avocat du diable, c'est peut-être un appel.
Oui, t'es supporter de Paris Saint-Germain.
Mais pas du tout. Enfin, franchement, en plus, sur ce genre de sujet, Pascal, tu sais très bien que, pour le coup, il n'y a pas de supporter ou pas supporter. C'est juste que peut-être que Luis Enrique se dit, peut-être que si je mets l'accent sur les autres, on fera peut-être avancer le schmilblick plutôt que juste le Paris Saint-Germain.
Oui, ok, non. Les gars, mais moi j'attends que vous sanctionnez parce que ça se passe.
Il faut leur boulot quand même. Il ne peut pas attaquer non plus la Ligue. Il ne peut pas attaquer.
Juste pour vous rappeler, pour le Paris Saint-Germain, en tout cas, le PSG qui a envoyé un communiqué à ses supporters et un courrier à ses abonnés. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, il y avait aussi ce genre de chant avant d'aller au stade Vélodrome et avant le match du classique. D'ailleurs, le speaker par deux fois avait dit aux supporters de se calmer. Mais à propos de ces chants, et voici ce qu'a envoyé le Paris Saint-Germain à ses abonnés. Le club souhaite rappeler à tous ses supporters que les chants insultants n'ont pas leur place dans l'enceinte du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain ne saurait accepter ce type de comportement ou de message. Et ça, c'était donc hier, à la veille de la réception tout à l'heure de Lens pour le Paris Saint-Germain. Ce sera à 17h à suivre sur RMC.
Ben voilà qui est plus classe.
Ok, allez, on passe à un autre sujet. C'est dans quelques instants la suite des grandes gueules du sport. Les GG contre-attaque. Vous avez pu voter, cher
auditeur. Il est en tête toujours.
Auditeur.
Ah oui.
Pascal Duprat est en tête, mais est-ce qu'il va le rester?
Ah, il reste.
Parce qu'on revient dans quelques instants. Ben oui, quelques instants. Et puis vous saurez qui a gagné et qui va pouvoir proposer son
débat. Mais comme il a voté pour moi, peut-être qu'on pourrait lui demander s'il veut pas plutôt qu'on parle de l'écart.
Attends,
de
je regarde le règlement des GG.
Par contre, je regarde. Pascal, tu vas être bon, par contre, si t'es choisi.
Ah, je viens de trouver non, la lumière.
J'ai besoin de vous, hein. J'ai besoin de vous, parce que moi, je suis dans l'interrogation.
D'accord, je serai là, Pascal, à tes côtés.
Ah oui, c'est pour ça, j'y compte bien.
Je viens de trouver. Il est dit, non, parce que évidemment c'est charté, c'est réglementé, hein, les GG. Il est dit que si une GG finalement donne son vote à quelqu'un autour de la table, bon, on s'en fiche. Voilà.
Ah
voilà.
Non,
ça n'a aucune incidence. Allez, à tout de suite sur RMC pour les GG contre-attaque.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h45 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, Pascal Duprat, Simon Dutin, Denis Charvet. À partir de 11h, nous allons parler du roi Léon qui a encore battu, pulvérisé un record du monde. Est-ce que les records du monde deviennent plus importants que les titres pour lui? Maintenant, on se posera la question. Et vous n'êtes pas d'accord? Mes chers GG, on rejoindra notre spécialiste Julien Richard. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, mes GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Votez pour votre débat préféré à la quatrième place. Malheureusement, c'était bien tenté. Une belle histoire en plus. Marie Martineau avec 10%. Ah ouais. Bratton, qui était norvégien et qui skie maintenant avec la nationalité brésilienne. 10%. Bravo, tu t'es bien battu, ma chère. Allez, Marie. 20% pour le rugby à 7 sans Dupont. Qu'est-ce que ça va devenir? Eh ben, on ne saura pas parce que ça a fait 20% et que c'est arrivé 3. La sanction de l'OL contre Gift Orban, 31%. C'était une très belle idée aussi.
Très beau débat de GG, ça. Voilà,
exactement.
Hein, merci.
Comprenez-vous cette sanction?
On le fera une autre fois.
On le fera une autre fois ou pendant la pub.
Ouais, ou jamais.
Parce qu'il a gagné. Pascal Duprat, 39% pour lui. Charles Olivon qui est retourné dans son club, qui n'est plus avec le 15 de France. Pascal, tu peux exposer ton débat, on t'écoute.
Dommage Marie, j'ai voté pour toi.
Ah, merci. Donc,
tout ce que j'aimerais en fait, c'est vous poser cette question-là parce que moi ça m'interpelle. Donc cette semaine, il y avait je crois 42 joueurs qui étaient regroupés à Marcoussis et Galtier, on a enlevé 19 de cette liste pour et les autres participants à la tournée d'automne. Et puis je constate que parmi les garçons qui sont renvoyés, il y a Charles Olivon. Et Charles Olivon, ben moi je le kiffe. Et ce joueur, il incarne d'abord le premier capitanat sous l'ère Galtier. Il incarne par ses surnoms le capitaine Courage, le grand Charles. Il est toulonnais, ce qui ne gâte rien. Et puis il est le meilleur marqueur d'essai en équipe de France dès avant. Puisque pendant la dernière Coupe du Monde, il a dépassé Olivier Magne. Donc moi, de le voir retiré de la liste, alors qu'il n'y a pas de communication sur le sujet, alors que certes, en septembre, il a été victime avec son club d'une commotion cérébrale, qu'il n'avait pas été convoqué au Stadium dimanche dernier pour affronter Toulouse... Et qu'il est un peu en dessous depuis le début de la saison. J'aimerais savoir si ce retrait signifie la fin de carrière internationale de Charles Olivon, ou si simplement Galtier, dans vos esprits, vous considérez que Galtier fait des tests à ce poste-là parce qu'il connaît parfaitement Charles Olivon. Voilà. Si tel était le cas, s'il devait quitter l'équipe de France de cette manière-là, je trouve qu'on peut établir un parallèle entre la présupposée, parce qu'encore une fois je parle au conditionnel, l'attitude qu'aurait à ce moment-là Galtier par rapport à Deschamps, parce que Deschamps, ses soldats, il a su les protéger tout le temps, contre vents et marées. Et je peux citer des exemples. En tout cas, il aurait jamais sorti Loris du but alors qu'il en était le capitaine. Il aurait jamais sorti Pogba avant la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui était en difficulté dans son club. Il l'a maintenu contre vents et marées pour le bonheur que l'on connaît. Voilà, je suis interrogé. J'espère que c'est pas la fin du grand Charles.
Vous allez pouvoir répondre, Denis. Tu pourrais faire des grands gestes depuis tout à l'heure. Je te fais des grands gestes pour te dire je reprends la main. Et tu vas pouvoir répondre à Pascal. Mais juste avant, Pierre Mignoni, le coach de Toulon, le coach de Charles Olivon, lui aussi a été étonné. On l'écoute.
Oui, je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent forcément, mais peut-être qu'ils veulent aussi essayer des joueurs, et ça, il faut poser la question au sélectionneur. Mais en tout cas, on récupère Charles, je l'ai eu au téléphone, il est bien sûr content de revenir aussi, il va repartir dimanche soir. Voilà, lui, il est concentré, il est focus sur Toulon, et puis après, il aura une deuxième semaine pour se préparer avec l'équipe de France, pour peut-être certainement y être dans les 23, et demain, il sera avec nous.
Pierre Mignoni se pose aussi la question, est-ce que c'est du turnover ou est-ce que ça sent le déclin, Denis Charvet?
Alors, d'abord en équipe de France, il n'y a pas de test. Comme tu l'évoques, Pascal, pour moi, c'est les meilleurs qui jouent. Et il y a une logique dans la sélection de Fabien Galthié, c'est qu'il a fait confiance à un garçon qui s'appelle Alexandre Roma, qui est à peu près le, si tu veux, qui a le même profil que Charles Olivon, mais qui a fait un début de saison extraordinaire avec le Stade Toulousain, qui a été déjà en équipe de France l'an passé pendant le tournoi, et qui a pris sa place, voilà, qui a pris sa place, qui a gagné sa place, et là, il n'y a pas photo. Donc, je dis pas que.
En fait, tu me casses dès la première parole.
Non,
quoi, en fait.
Je casse pas. C'est que moi, c'est le regard que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport.
Il joue aux trois postes, hein, de troisième ligne.
Oui, oui, mais
il
c'est.
Il peut jouer.
Oui, mais si tu veux, c'est aujourd'hui, tu as Aldrit, Gross et Alexandre Roma qui vont former la troisième ligne. Il n'y a pas de place pour Charles. Charles, il peut être remplaçant aujourd'hui. Mais
c'est il peut être remplaçant quand même.
Oui, mais bon, apparemment, il sera pas remplaçant. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Je vois pas que Charles Olivon ne revienne jamais. Je ne crois absolument pas. D'accord. Que Charles Olivon ne reviendra jamais en équipe de France.
Alors là, tu me rassures.
Ah mais non, mais il reviendra, c'est certain.
Forcément, on parle d'âge, parce que la projection
31 ans.
De Fabien Galthié, non mais c'est la Coupe du Monde
mais non, mais tout
en 2027.
Mais...
Est-ce que ça joue? Est-ce
oui,
que
ça
Charles
joue.
Olivon, il est trop vieux pour espérer 2027? C'est
alors,
la question.
Ça. Moi, je pense que ça joue, mais ça veut pas dire qu'il sera pas. Ça joue parce que les saisons sont très longues, on l'a évoqué tout à l'heure, et qu'il faut à cet âge-là, il faut se gérer.
Est-ce que c'est maintenant qu'on prépare 2027?
Ouais,
oui, est-ce que c'est maintenant que les joueurs qui ont dépassé la trentaine, on se pose vraiment la question de les garder?
On les garde ou on les garde pas? Mais on les gère. Donc c'est effectivement, c'est le moment de savoir est-ce qu'ils vont aller jouer avec nous jusqu'à la Coupe du Monde ou pas. Et je pense dans la tête de Fabien, c'est calculé tout ça. C'est calculé.
Donc il est même. Donc Fabien, il n'est pas sûr.
Il n'est pas sûr. Mais il y a l'émulation, ça fait partie de la vie du très haut niveau.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Oui, mais la concurrence, il se trouve qu'aujourd'hui la concurrence, un joueur comme Alexandre Roy, on n'attendait pas à ce qu'il arrive à un tel niveau de jeu. Et tout d'un coup, il chamboule tout. Il s'impose au Stade Toulousain. Il est titulaire au Stade Toulousain. Il est formidable.
Il a perdu sa place, Charles Olivon. Non, mais il y a pas de mal à le dire. Hein, c'est pas un
gros mot. Moi, je pense qu'il a perdu sa place. Mais c'est encore une fois, c'est pas comme le disait Pascal, c'est pas du tout un test. Pour moi, c'est faut arrêter de penser que c'est des tests.
On prend les meilleurs, donc là pour ce match, il a perdu sa place.
Rappelons quand même qu'on va jouer les Blacks dans 10 jours. Enfin, dans 10 jours, 15 jours, pardon.
Quoi, il aurait fait tâche. Dit, voilà, il aurait fait tâche contre les Blacks.
On a suffisamment souligné parfois l'immobilisme. Tu sais ce que nous, avec notre jargon, nos poncifs, on appelle les sénateurs, les mecs qui bougent jamais, en effet, qui ont la carte et qui, en effet, qu'ils soient bons ou moins bons, conservent leur place. On rappelle que Olivon, il est retourné dans son club, mais ils sont 19, hein. Il en a pris 42, en vertu de la convention, la passe avec la Ligue. Maxime Lucu est reparti à l'UBB, Jonathan Danty est reparti à La Rochelle, c'est quand même des
Anthony
mecs.
Jelonche.
On avait, alors Jelonche, il revient d'une
de blessure,
ouais, 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 ouais,
deuxième en dans sa carrière, mais bon, c'est des mecs qui font partie quand même des meubles en équipe de France, Lucu, Danty et Olivon. Donc Olivon, il va être capitaine ce week-end face à Lyon du RCT. Je pense que Mignoni, c'est pas un pimpin. S'il le met capitaine et sur le terrain, c'est que le gars est quand même en forme. Après Galthié, il ouvre un petit peu, tu vois, petit appel d'air dans le groupe. C'est bien de récompenser un Roumat. Denis soulignait que Roumat, lorsqu'il signe au Stade Toulousain, bon, il n'était pas titulaire à l'UBB, d'où il venait, il signe au Stade Toulousain. Donc, énorme progression, hein, de la part du fils d'une ancienne légende. Hein,
qui a fait les efforts, d'ailleurs, pour être à ce niveau-là aujourd'hui. Donc,
à ce titre-là, c'est mérité. Moi, je pense que Olivon, il reviendra en équipe de France, vice-capitaine, en effet, Denis le soulignait. Il y a un match contre le Japon, je pense que c'est une échéance qui peut permettre justement de lancer Roumat titulaire. Derrière, tu vas jouer les Blacks et les Argentins.
C'est quand même bizarre de renvoyer ton vice-capitaine.
Il n'est pas interdit. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Pascal, mais il n'est pas interdit de penser. Donc moi, c'est ma conviction que Olivon, il sera dans le groupe au moins face aux Blacks ou au moins face aux Argentins.
Le vice-capitaine, c'est Aldrit aujourd'hui. Le vice-capitaine.
Merci Simon, tu me rassures.
Marie Martineau.
Moi, je pense qu'il reviendra, oui.
Non, mais on n'est pas dans le groupe et je me demande à quel point Galthié, vu la situation actuelle de cette équipe de France, ne fait pas aussi des choix, pas forcément en fonction du sportif dont vous vous êtes largement épanché, mais sur la constitution d'un groupe. groupe, d'un collectif qui puisse vivre peut-être nouvellement, différemment, peut-être que, et là je suppute, hein, parce qu'en fait on suppute tous quand même, alors sportivement c'est un peu plus évident de tirer des conclusions, mais là je me dis que vu la situation dans laquelle on est avec cette équipe de France et tout ce qu'on a reproché à Galtier, notamment de pas faire de pas prendre ses responsabilités suite aux affaires de cet été, peut-être qu'il est aussi dans une démonstration d'un truc nouveau, d'une nouvelle façon de manager, et qu'il a mis un petit peu de côté le sportif pour se concentrer
sur autre chose. Mais ta question, on peut pas dire d'Olivon qu'il est pas exemplaire.
Non, je sais pas.
C'est un joueur qui a toujours été exemplaire. Et j'aimerais tordre le cou à ce que tu disais tout à l'heure, appuyé par Jean-Christophe, et vous avez raison, pour la perspective de la prochaine Coupe du Monde et l'âge des joueurs. Bon, par exemple, François Kroos, il n'a que 6 mois de plus que Charles Olivon. Et pourtant, on se pose pas la question. Il ira peut-être.
Mais s'il se pose la question,
Marie.
En tout cas, peut-il revenir en bleu? Certainement que oui. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de choix aussi rédhibitoire que ça. Donc bon, et puis cette tournée d'automne, c'est pas non plus le truc de l'année. C'est pas.
C'est important quand même pour le rugby français.
De toute façon, tous les matchs sont importants aujourd'hui, mais Charles reviendra.
Ok.
Merci. Me voilà rassuré.
Sachez qu'il y a France-Japon samedi prochain, donc dimanche dans les GG, on débriefera le match. Que le week-end d'après, le samedi soir, il y aura France-Nouvelle-Zélande. Évidemment, on débriefera la rencontre. Et que le vendredi soir, c'est le 22, il y aura ce France-Argentine. Donc on débriefera aussi à chaque fois les matchs du 15 de France. Philippe Saint-André sera largement aussi avec nous ces week-ends-là pour nous parler de cette équipe de France. Il est 10h56. On se retrouve dans quelques instants pour parler. Évidemment, du Roi Léon. Est-ce que les records du monde deviennent plus importants que les titres pour lui? Oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? Et puis, il y a du 11h30. Ouh là là, il y a le débat caché. Il va vous plaire, celui-là. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.